Un conseil, madame, un conseil, monsieur.
Le mardi.
Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger les mardis. Avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger, manger, manger les mardis. Et des tas de laitues et des tonnes de pissenlits.
Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Bientôt vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous attend.
Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Le bruit des bisous.
Mardi.
Blablabla. Bla 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 bla.
Et nous voilà en studio. Une fois par mois, nous vous retrouvons, chers divergents, chères divergentes. C'est mardi, rendez-vous, et c'est le rendez-vous blabla. On va blablater ensemble, parler comme ça de culture. C'est notre créneau, mon cher François.
Bien sûr, de ture, de cul, de tout ce que tu voudras.
Évidemment, on fait dans la finesse, vous l'aurez compris. Nous sommes un peu des bouchers charcutiers de la culture. C'est comme ça qu'on nous définit. Nous nous retrouvons toutes les semaines avec quatre concepts d'émission. C'est le seul en plateau. Les autres, vous les écoutez tous les mardis. C'est une autre façon de voir la culture, dans la ville, dans les bars, au plus proche de nos invités.
Et les émissions sont podcastées, vous le savez, vous pouvez retrouver le lien sur le podcast sur le site de Divergence, dans toutes les rubriques d'émissions.
Exactement, et c'est même référencé sur iTunes, vous tapez simplement mardi dans iTunes Store et vous retrouvez notre lien pour podcaster cette émission merveilleuse. Aujourd'hui nous retrouvons, une fois n'est pas coutume, nos amis de Kawenga, nous aimons ce qu'ils font, on le dit à chaque fois, avec une performance audiovisuelle The Other Side, The Other Side, qui passe demain au Trioletto. C'est notre Grégory Diguet national qui viendra nous faire un petit peu la retape de cet événement. Ensuite, on va aller vers un événement un peu plus polémique. C'est la nomination assez contestée de Jean-Marie Bessé à la tête du Centre Dramatique National de Montpellier.
Et on retrouvera sur le plateau Frédéric Saccard, qui a été candidat à la direction du Centre Dramatique National. On retrouvera Julien Bouffier par téléphone, qui a lui aussi été candidat. Ils auront des choses à nous dire.
Et une interview à chaud, réalisée il y a à peine 10 minutes, de Michael Delafosse, l'adjoint à la culture, qui nous donnera un petit peu son point de vue officiel, ville, sur cette nomination contestée.
Qui est le seul élu et représentant des collectivités locales et de l'État à avoir accepté de nous livrer son opinion sur ce dossier qui commence à agiter un peu la presse nationale.
Exactement,
quand même,
on y reviendra de façon très très précise tout à l'heure. Et on finira l'émission avec nos amis de Cosmic Groove, et c'est Bruno avec son groove endiablé. Sa boutique à côté de Saint-Roch fait fureur et ses concerts sont aussi absolument délicieusement
fantastiques,
on peut le dire, qui attirent un public incroyable et surtout avec des artistes qu'on a très très peu l'occasion de voir ici à Montpellier. Et ça va être le cas de Naomi Shelton, 66 ans, la reine du rhythm and blues, qui n'est jamais venue finalement en France de sa vie. Et Anthony Joseph, qui a été la fureur de cet été à 7, on se souvient de ce live incroyable au Théâtre de la Mer. Il revient pour deux concerts fabuleux au Jam et à la Victoire. Et on finira comme ça sur une touche assez groovy. Pour l'heure, un premier morceau, une première petite exclue, c'est Gush. Gush, c'est marrant, c'est le morceau que nous avions passé la semaine dernière à l'émission sur Hugh Coleman.
C'est Hugh Coleman qui nous l'a fait découvrir.
Exactement, il nous disait que Gush, est pour lui, est une des révélations de l'année, avec qui il va travailler notamment pour un album prochainement. Et là, c'est vrai que c'est très très bon. L'album sort le 15 février 2010, Everybody's God. Le morceau, c'est Let's Burn Again, et Gush, c'est deux frères et deux cousins, une belle épopée familiale élevée aux Beatles, Crosby, Stills, Nash & Young, des rois des harmonies vocales.
It's all good to touch your skin, to grab your
Et c'était Gush. C'est assez frais, c'est pop. On sent qu'il y a des influences du passé, mais c'est très actuel quand même.
C'est un titre qu'on retrouve dans le podcast de l'émission Le Portrait de Hugh Coltman qu'on a fait la semaine dernière et qui est en ligne depuis quelques heures.
Parce que la radio, c'est ça. Évidemment, vous nous écoutez aujourd'hui en direct sur les ondes, mais n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, vous pouvez retrouver tous nos programmes. On aime bien faire de la pub comme ça. Et qui on reçoit ? Qui on reçoit ? Ding dong ! Qui est la chérie ? Ah, mais c'est Grégory Diguet de Kawenga. Qu'est-ce que tu es ? Tu es monsieur production à Kawenga ?
C'est ça, je suis monsieur production, monsieur diffusion et voilà, donc pas mal de choses, surtout ce semestre, avec pas mal de rendez-vous, ouais, effectivement.
Ouais, et avec plusieurs rendez-vous qu'il y avait dans le cadre du Montpellier à 100%, qu'on a très très largement suivi avec Divergence, et des rendez-vous de qualité, avec un concert audio-tactile de Stimuline qui a fait fureur, et cette installation de Valentin Durif, qui était juste exceptionnelle et qui faisait un contrepoint magnifique à l'installation de notre ami...
Pierre Bastien, Pierre Bastien. La chapelle de la Miséricorde.
Exactement. Aujourd'hui, on se retrouve pour quoi ?
Des petits pâtés délicieux de audiovisuel pour votre boucherie culturelle. Donc je viens parler d'un projet qui est à voir demain soir, donc 2 décembre à 20h30 au Trioletto, qui s'appelle The Other Side, donc qui fait suite à un documentaire qu'on a présenté la semaine dernière à Kawenga, dans le cadre du mois du film documentaire. Et donc là, c'est une revisite de ce documentaire, mais live, avec la possibilité pour les deux auteurs, donc Elisabeth Tesla et Wayne Frost, d'utiliser tous les rushs qu'ont servi au départ de ce film, en tout cas.
Ces deux personnages, Elisabeth Tesla et Wayne Frost, un petit mot justement sur leur parcours.
Alors, Elisabeth Tesla est plutôt VG, donc elle a sévi surtout sur de la scène électro.
Alors, VG, juste pour nos auditeurs qui ont plus de 100 ans, on va le répéter. C'est le VJing, c'est comme le DJing. Alors, ceux qui ont plus de 120 ans ne savent pas non plus ce qu'est le DJing. C'est comme les passeurs de disques, mais sauf que là, c'est des passeurs d'images dans le cadre de soirées, souvent étiquetées un peu électro.
Vidéo jockey, effectivement, ouais. Donc, ça, c'est Elisabeth Tesla, et donc, qui nous vient de New York, et son ami Wayne Frost, qui nous vient du Canada. Je sais pas où exactement, Toronto, je crois. Et qui, lui, est plutôt musicien. Peut-être aussi, mais déjà, il est musicien plutôt issu aussi de la scène électronique.
Comment votre regard s'est porté sur ces gens-là ?
Alors, le regard, il s'est porté, déjà, c'était à l'occasion d'une rencontre qu'on a fait à Poitiers, dans un lieu qui ressemble un peu à Kawenga, qui s'appelle le lieu multiple, et où on a rencontré les deux artistes dans le cadre d'une résidence. On a vu un quart d'heure du projet et on a été absolument séduits, notamment par les images, parce qu'on a, donc, The Other Side est une performance audiovisuelle sur un triptyque vidéo. Et donc, on peut rentrer un peu plus dans le sujet de cette performance, puisqu'il s'agit d'un road movie à travers les Balkans. Un road movie des auteurs eux-mêmes qui sont accompagnés par un caméraman très, très fort doué, et donc il rencontre beaucoup de gens à travers ce pays qui a été bien sûr dévasté par la guerre, et il rencontre notamment des musiciens. Donc on va dire que le mix au moment de la performance permet aussi de jouer avec les musiciens qui sont retrouvés au moment de ce voyage.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça rentre justement pour toi dans le champ de la création multimédia ? C'est vraiment ce mix qu'il y a sur scène, j'imagine, parce que les techniques employées pour les captations sont de l'ordre, finalement, du film documentaire, entre guillemets, ou du reportage, c'est-à-dire quelqu'un qui part caméra à l'épaule et enquêter sur un territoire.
Oui, alors on n'est pas là forcément, pour Kawenga en tout cas, on n'est pas là forcément sur des nouvelles technologies, mais par contre on est plutôt sur des nouvelles formes d'écriture. Nous, ce choix s'est justifié notamment par rapport à ça. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet événement est proposé aussi dans le cadre des rencontres de l'éducation aux images en langue de Roussillon, qui se déroulent donc demain et après-demain. Et effectivement, pour nous, la partie intéressante, c'était bien évidemment le fait de recomposer un documentaire à chaque fois de façon différente et en live, puisque eux-mêmes sont présents sur la scène, et du coup là, dans l'écriture d'un documentariste, c'est complètement innovant le fait de pouvoir improviser les choix qu'on va faire, les choix des images et aussi les choix de la musique.
Alors, pour le rappeler, ça se passe au Trioletto, ça se passe pas à Kawenga directement, le Trioletto qui est la salle
du Crous,
gérée par le service culturel du Crous, une salle étudiante très très bien faite et qui pour accueillir le public notamment. Elle se prête vraiment vraiment à ce type d'accueil de projet ?
C'est vrai que dès qu'on est revenu de Poitiers, justement, dont je parlais tout à l'heure du lieu multiple, qu'on a envisagé d'accueillir ces artistes, le choix s'est vraiment très rapidement porté sur le Trioletto, où déjà, moi, j'apprécie énormément cette salle, j'apprécie sa proximité, et je pense qu'avoir ce triptyque vidéo ouvert vers le public, là, va vraiment prendre une belle ampleur.
On se souvient du projet de Start 21, jeune collectif vidéo architecture, qui l'an passé justement au Trioletto avait habillé comme ça de multi-écrans le Trioletto. Et c'est vrai qu'on peut totalement se projeter quand on a un petit peu ça en tête dans un lieu transfiguré comme ça en espace de projection. C'est votre première collaboration avec le Trioletto en direct ?
Oui, c'est vraiment la première collaboration directe avec le Trioletto, avec qui ça se passe très bien. On est vraiment ravis de cette collaboration. On aurait d'ailleurs pu imaginer une collaboration avec ce qui a été proposé la semaine dernière avec le Pocket Film. Et voilà, et bon, les choses se font au fur et à mesure. Vrai qu'on est assez proche finalement sur certains choix.
Nous avions justement reçu Franck Berger, responsable du Trioletto et du service culturel du Crous, le mois dernier lors de notre dernier Mardi Blabla pour présenter le Pocket Film Festival. Ce festival de films réalisés uniquement par des moyens mobiles comme caméra, téléphone.
Portable, ouais.
Et ça, c'est vrai qu'on pouvait tout à fait imaginer que c'était un projet kawengable. Parce que ça devient...
C'était kawengable, ça le sera peut-être. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a des pistes, effectivement... à imaginer sur cette collaboration. Et puis c'est vrai que cette salle permet aussi de toucher un public étudiant, ce qui n'est pas toujours évident, et donc à suivre.
En tout cas, vous avez très très largement ouvert vos collaborations, c'est-à-dire que là, cette année, on ouvre très large, hein. Du centre chorégraphique au Montpellier à 100%, en passant par les divers lieux de la ville, vous êtes devenu un lieu pivot qui ne cesse justement comme ça de faire la béquille, le lien entre plein de gens.
Ouais, et sur ces nouvelles pratiques, c'est vrai. Et bon, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on n'est pas à proprement parler un lieu de diffusion. On n'est même pas vraiment des diffuseurs. On est plutôt un lieu de création. Donc, d'une façon très simple, les collaborations se mettent en place à partir du moment où on aime travailler avec des gens qui savent faire ce métier qui est bien particulier, qui est la diffusion.
Petit rappel, Kawenga, vous pouvez aller voir justement le lieu. C'est un lieu que vous occupez depuis quelques mois maintenant. C'est boulevard Louis Blanc. Il y a de belles vitrines. Vous pouvez y rentrer comme ça directement et aller poser toutes les questions que vous voulez autour des nouvelles technologies. Vous faites aussi des sessions de formation diverses et ouvertes à un public assez large. Les points graphiques, les points comme ça qui sont autant d'ouverture pour pénétrer ce monde qui peut paraître secret comme ça de l'extérieur. La soirée The Other Side de Elisabeth Tesla et Wayne Frost, c'est mercredi 2 décembre, donc demain à 20h30. Et c'est 5€ et c'est au Trioletto, arrêt de tramway, université. Et on passe une petite pause musicale. C'est notre cher Miaou Miaou François Barrez qui s'y colle.
Et oui, c'est mon coup de cœur du moment. Ça s'appelle le Prince Miaou. C'est l'acronyme d'une fille qui est toute seule, hein, qui s'appelle Maud Elisa Mando, dans son vrai nom, qui est une charentaise de son état natal. Et c'est son deuxième disque, ça fait T-First. Ça fait bizarre de dire deuxième disque parce qu'elle n'a pas de maison, elle n'a pas de label, que les disques n'existent pas sous forme physique, elle les vend sous son MySpace et sur son compte PayPal. Donc vous pouvez aller voir ça une fois que vous l'aurez écouté. J'ai trouvé ça en faisant une recherche par mots-clés. Il se trouve qu'elle a un titre qui s'appelle Blabla. Alors je suis allé regarder si ça pouvait illustrer Mardi Blabla. C'est un peu compliqué. On va écouter un autre titre du Prince Miaou. On va écouter Hawaiian Tree.
C'est parti.
Je te jetterai des cailloux. Je te jetterai des cailloux.
Such a mess outside. Such a mess outside. Such a mess outside. Just lie inside. Such a mess outside. It wasn't a rainy day today. Such a mess outside. Just like inside, liquid inside. It wasn't a rainy day today, but I feel like I'm drenched to the skin outside.
I sat a day in bra, quartering your words. I wish I could throw stones out here. It's such a mess inside. I never ever despised you. I never ever despised you. I never ever lay down you. I jumped all day in bra to make it go away. I've been dreaming day in bra that I could fix today. It's raining inside and it won't go. Like a Hawaiian tree,
te jetterai des cailloux.
So your thoughts,
te jetterai des cailloux.
Were drop on the floor. I'd pick them up, keep them on my head until the day I understand
what's going on in your brain.
What's going on in your brain?
What's wrong with your brain?
What's wrong with your brain?
What your brain is made of.
What your brain is made of. How your brain is working.
Et voilà, c'était le Prince Miaou, Hawaiian Tree, de son deuxième album, Safety First. On a sur le plateau Frédéric Saccard, on a Frédéric Saccard pour aborder avec nous ce débat qu'on aurait voulu un peu plus large, hein, puisque on a invité tous les protagonistes de cette affaire qui commence à secouer un peu la presse nationale, qui est celle de la nomination du nouveau patron du Centre Dramatique National dit des 13 Vents, le Centre Dramatique National de la région Languedoc-Roussillon, si à Montpellier. Et il se trouve que après la nomination de Jean-Marie Besset et de Gérard Desvaux, il y a un certain nombre de voix qui se sont élevées dans la presse nationale et dans la presse locale, dans la presse nationale par l'intermédiaire des organisations patronales que sont le Syndéac, le patron, les patrons des établissements soutenus par le public, on va dire, de spectacles vivants, et la CID, qui est l'association des patrons de centres dramatiques nationaux. Il y en a 41 en France, des centres dramatiques nationaux, qui se sont élevés en disant que la procédure qui est d'usage et qui en tout cas était celle qui avait été annoncée dans l'offre publique de recrutement n'avait pas été respectée et que donc ça créait un précédent relativement fâcheux. Et à côté de ça, effectivement, un certain nombre de candidats, je ne sais pas s'il y a tous les candidats, mais Frédéric Saccard nous le dira, hein, des candidats à la direction de ce CDN protestent auprès du ministère contre la façon dont ils ont été traités, c'est-à-dire pas reçus, pas, leur candidature pas examinée, etc. On verra ça avec Frédéric. Un petit mot pour que les auditeurs comprennent là où on en est. On a en France un certain nombre de structures labellisées par le ministère de la Culture et de la Communication, en charge de missions de service public de diffusion d'œuvres artistiques et de la culture. Et parmi ceux-ci, il y a les centres dramatiques nationaux, dont les premiers sont créés dans les années 1946, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, avec ce qu'on a appelé la décentralisation théâtrale, on a multiplié les centres dramatiques nationaux pour qu'il y en ait au moins un en région, si ce n'est deux, et en leur donnant un certain nombre de prérogatives, des contrats de 3 ans renouvelables deux fois, avec une garantie de moyens et de budget et un statut juridique qui qui est en fait celui qui pose problème aujourd'hui pour des raisons qui sont liées à l'histoire. C'est-à-dire que dans les années 80, on a décidé, pour faire très rapide, hein, que ces centres dramatiques nationaux ne seraient pas des établissements publics, mais qu'ils seraient gérés par des SARL ou des sociétés anonymes. L'idée du ministère à l'époque, c'était de se garantir contre le déficit, d'une part, et surtout de privilégier dans l'activité des centres dramatiques nationaux leur capacité à produire des spectacles et bien sûr à les vendre, c'est-à-dire à les faire tourner. Ce système de la SARL, du droit privé, était censé pouvoir être un booster de création théâtrale. Sauf que le montage était très compliqué, c'est-à-dire qu'on nomme pas le patron d'un théâtre comme on nommerait le patron d'un théâtre national qui est un établissement public, on nomme le gérant d'une SARL, ce qui est quelque chose de pas très très classique, et une SARL dont la moitié plus une des parts sont détenues par l'État et les collectivités territoriales. C'est-à-dire que l'État, en moyenne, souffre la moitié des subventions données aux centres dramatiques nationaux, et puis les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, comme elles le veulent, bouclent le reste du budget. On a donc un directeur qui est nommé, un gérant de SARL, qui est nommé par ce conseil d'administration, et qui, au bout de ses mandats, doit céder la place à un autre gérant, ce qui pose tout un tas de questions qui, jusque-là, se sont passées relativement bien, qui sont des questions de pure forme. Bon, voilà, il faut qu'il cède les parts, parce que c'est quand même un truc un peu bizarre, hein. On nomme quelqu'un à la tête d'une mission de service public, puis il faut qu'il achète le capital de la structure dont il va être le gestionnaire. Et puis il la revend à la fin sans avoir le droit de faire du profit dessus, bien sûr. Il la revend sans avoir le droit de revendre les biens. Tout ça est donné au prochain directeur, y compris le personnel s'il veut le garder, même s'il a obligation de créer des provisions dans la dernière année de son mandat pour pouvoir payer le licenciement économique éventuel de ses salariés. On en est donc là avec Jean-Claude Fall, qui, à la fin de ses mandats, est allé dans ce processus de désignation d'un successeur à Jean-Claude Fall. On a eu un premier appel à candidature relativement classique dans la procédure qui n'a pas abouti, qui a été infructueux, sans shortlist, et on a refait un deuxième appel à candidature, cette fois dans un mode qui n'est pas habituel, mais ce qui est très compliqué, c'est que les patrons de centres dramatiques nationaux ont toujours refusé qu'on codifie la procédure, parce que la souplesse était nécessaire à l'évolution des choses, et qu'aujourd'hui, ils sont un peu embêtés d'ailleurs de ne pas être allés aussi loin. Et on a donc une procédure qui n'a pas été la procédure d'usage. Et on a comme ça un étonnement et une vraie interrogation, c'est-à-dire que globalement, on est dans une situation où le ministre nomme celui qu'il veut, dans une négociation avec les collectivités territoriales. Alors voilà où on en est, Jean-Marie Besset va être le patron au 1er janvier, il le faut parce que l'équipe du Centre Dramatique National elle a besoin d'un patron, hein. On les a contactés aujourd'hui, hier plutôt, les salariés, hein, par le biais de leurs représentants, ils nous ont expliqué qu'ils ne voulaient surtout pas s'exprimer sur cette question-là parce que ce qui leur importe avant tout, c'est que la boutique elle tourne, et que donc on est le 1er janvier, on est le 1er décembre, que dans un mois on change de patron et qu'eux aimeraient bien savoir s'ils restent, s'ils partent, comment ça se passe leur mission, tout ça, quel est le projet sur lequel ils vont bosser. On a contacté les collectivités territoriales, toutes sauf une ont refusé de nous répondre, mais on écoutera tout à l'heure l'interview de l'adjoint à la culture de la ville de Montpellier, qui n'est pas la collectivité qui pèse le plus dans cette histoire-là, mais qui est en tout cas la seule qui a bien voulu s'exprimer. L'État, par le biais de la DRAC, a refusé de s'exprimer, ils nous ont même pas répondu d'ailleurs, et dans l'absence des collectivités territoriales les plus fortes, le Syndéac a décidé que il en parlera une autre fois quand il aura des interlocuteurs. Nous, des interlocuteurs, on en a. On a Frédéric Saccard, on a Julien Bouffier, et on va avoir au moins le point de vue de ceux qui disent la procédure s'est mal passée, quand même, on est dans une situation pas correcte, et on râle. Ce râlement est légitime, c'est pour ça qu'on reçoit Frédéric Saccard et qu'on aura Julien Bouffier au téléphone.
Exactement. Frédéric Saccard, directeur du théâtre de l'université Paul-Valéry La Vignette, on te reçoit régulièrement pour la qualité de ta programmation. Aujourd'hui, c'est un autre titre que tu es ici. Je vous propose d'entrée de jeu de peut-être réagir à un propos qui est celui de l'élu à la culture de la ville qui était justement censé faire partie de la commission qui pouvait comme ça légitimement examiner les candidatures. L'interview s'est faite à chaud il y a à peine une demi-heure. C'est voilà, le seul représentant d'une institution qui a décidé, qui a bien voulu se prêter au jeu de l'interview. On l'écoute, ça va faire une base comme ça pour lancer notre petit taureau. et notre discussion. C'est parti, mon kiki.
Michael de la Fosse, quelle est la position de la ville face à la nomination un petit peu controversée de Jean-Marie Bessé à la tête du Centre Dramatique National de Montpellier?
Alors, vous faites bien d'employer le terme de nomination. J'y rajouterai nomination unilatérale de Jean-Marie Bessé par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Moi, je découvre M. Bessé. Je découvre à travers ses quelques prises de position dans la presse. Je ne connais pas son projet artistique. J'espère pouvoir en discuter avec lui, éventuellement lui indiquer comment la ville de Montpellier voit les choses. Mais je voudrais m'autoriser, par l'intermédiaire de vos ondes, de préciser ce qu'a été la position de la ville de Montpellier dans la nomination d'un poste majeur de responsabilité à la tête de la direction du Théâtre des 13 Vents, donc du CDN. Pour ma part, la ville, elle soutient 10 lieux de diffusion en théâtre. Ça va du théâtre Jean Villard, qui est une fierté pour la ville de Montpellier, soutenue par le département, la région, mais au soutien au théâtre Pierre Tabar, au théâtre de la Vista, et puis de soutien aux compagnies de Montpellier, les compagnies qui sortent du conservatoire ou d'autres qui ont réussi à se professionnaliser parce qu'elles étaient dotées d'un certain talent. Et donc nous, on met quand même sur la table, pour le spectacle vivant, 1,5 million, la ville de Montpellier. Et c'est vrai que la personnalité du directeur, elle conditionne un peu les relations entre l'institution phare du théâtre, les 13 vents, et la dynamique théâtrale de la ville, celle du conservatoire, celle des compagnies présentes, celle des lieux, et donc du public. Donc c'est pas un petit enjeu. Mais c'est vrai que moi j'ai souhaité participer au jury, et le mot est lâché, jury. Et alors je dois vous avouer que, en venant dans le jury, moi ma position était la suivante. Il faut auditionner des candidats, il faut écouter leurs projets artistiques et il faut écouter ce qu'ils ont à dire pour le théâtre à Montpellier qui a besoin d'une dynamique nouvelle, d'une étape, d'un élément nouveau. Alors on est quand même entré dans une histoire ubuesque. UBS parce que le premier appel à candidature a donné lieu à 12 candidats, si ma mémoire est bonne, et un n'était pas sur les listes de l'État, exclu d'emblée, qui était Georges Lavaudant. Bon, donc un qui est pourtant une signature de renom du monde théâtral était exclu. Position un peu étrange. On aurait pu écouter chacun des candidats. Moi, j'ai fait savoir dans la presse, et je crois sur vos ondes, que pour ma part, soit on prenait le pari pour les 13 ans d'avoir un jeune directeur, c'est-à-dire quelqu'un qui a un peu d'expérience, mais dont l'essentiel de sa carrière est devant lui, pour essayer de donner un souffle, un regard nouveau, et puis qu'à terme, ces 13 ans servent à un petit peu amener des gens vers les institutions parisiennes, parce que nous le savons, c'est aussi là que ça se passe. Soit, effectivement, il y a une personnalité de renom qui, par son nom, par son expérience, apporte aussi une dynamique nouvelle au théâtre. Moi, c'était ça ma position et je n'en ai pas changé. Et donc, un candidat n'est pas sur la liste. Donc, nous avons tous demandé à l'État de bien vouloir réviser sa position et de dire ayons une procédure loyale. Auditionnons chacun des candidats, n'en excluons aucun, a priori. Première réunion se finit par un désaccord entre les collectivités locales et l'État. Une deuxième réunion est convoquée, et là on nous dit qu'au-delà de l'appel à candidature, le ministre aurait son candidat, et peu importe cet appel à candidature. On nous dit de manière informelle, mais pas par voie de presse, mais par source autorisée, on sait qu'il y a un problème. Et visiblement, le ministre a, depuis sa nomination, son candidat. Et l'État, il faut que les auditeurs soient au courant, est le premier financeur du CDN. Et donc, à ce titre-là, c'est lui qui prime. Et donc, in fine, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre a nommé M. Bessé. Nous l'avons appris par voie de presse. Nous n'avons pas pu avoir la nécessaire discussion entre partenaires sur la situation du théâtre à Montpellier et les ambitions que nous devions collectivement afficher. Et il y a la nomination d'un homme qui, d'emblée, fait controverse parce que cette discussion n'a pas eu lieu. Voilà, ça c'est le premier point que je voudrais évoquer très sereinement aux auditeurs ce soir. Il n'y a pas eu de dialogue. Et finalement, l'État qui, petit à petit, s'est engagé avec un dialogue avec les collectivités locales, puisque les collectivités locales ont pris un rôle croissant dans le financement des politiques culturelles, et tant mieux, Et bien là, a complètement changé de braquet et finalement a décidé, ben voilà, l'État c'est moi, et moi, Monsieur Mitterrand en l'occurrence, je décide qui je veux, dans une absence totale de concertation, en tout cas avec l'élu à la culture de la ville de Montpellier, dont je rappelle, une dizaine de théâtres soutenus, 25 compagnies, des fonds d'aide à la création, des interventions de comédiens dans les écoles, enfin donc d'éducation artistique, donc autant d'enjeux qui sont quand même non négligeables.
Est-ce qu'au-delà de ce problème lié à la nomination et à la procédure de nomination, est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui lié au mode de fonctionnement des centres dramatiques nationaux, qui ne sont pas totalement des établissements publics, mais sont sous forme d'SARL ? Et est-ce que ça, justement, ça ne pose pas un problème d'emblée dans cette fluctuance qu'on peut laisser comme ça sur des moments aussi importants que la nomination d'un directeur ?
Moi, je vais vous dire de manière extrêmement franche ce que je crois. C'était une très belle ambition, les CDN. Je parle maintenant à l'imparfait. Et que c'est une très belle ambition de démocratisation de la culture avec des missions de service qui leur sont allouées. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette institution-là, du point de vue de son pilotage qui appartient à l'État, est un impensé. Et qu'on ne se préoccupe, en tout cas, l'État, moi j'ai cherché, hein, pour être honnête, ses positions aujourd'hui sur comment il voyait les CDN, comment il voulait affirmer dans les régions, c'est-à-dire au-delà de Paris, qui concentre toutes les grandes institutions nationales, comment il voyait une politique de diffusion, de soutien à la création du spectacle vivant en région. Et là, honnêtement, il n'y a pas de doctrine. Et donc, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est un statut de SARL. Honnêtement, ce serait une société coopérative, ça m'irait mieux. Ce serait un établissement public à part entière, j'en serais ravi. Mais je crois qu'on est aujourd'hui dans un impensé, globalement, du point de vue des CDN et la crise qui se pose à Montpellier, parce que de crise, il s'agit. Un directeur est nommé, une concertation ne se fait pas, ou si elle se fait, elle se fait au bout d'un coup de fil avec le président de région, lui en l'informant que c'est M. Besset qui va être nommé. Voilà, dont acte. Et en même temps, une partie du milieu culturel, mais à la fois montpelliérain, mais aussi national, j'observe la position du Syndéac, qui se met en situation de contester. Franchement, M. Mitterrand, sur lesquels beaucoup de gens ont fondé quelques espoirs, ben on est déçus, parce que quand Marianne Diaye est attaquée de manière effrontée, il ne monte pas au créneau pour défendre la liberté d'expression des écrivains. Du point de vue de sa première nomination à la tête d'une institution culturelle majeure, il pose là un acte d'autorité qui préfigure de mauvais choix de manière structurelle pour l'avenir. Et honnêtement, et par ailleurs, je me permets d'informer les auditeurs, c'est très important, la fin de la direction du livre, très mauvais signal envoyé aux libraires, au réseau de lecture publique et à tous ceux qui sont des militants de l'objet livre, qui devient une direction où le mot livre n'apparaît plus, mais direction des industries, des relations avec les industries culturelles. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'intitulé exact, mais en tout cas, il y a plus symboliquement la direction du... Donc vraiment, on voit des choix, des choses qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire des mutations à laquelle la culture est confrontée, mutations liées au changement technologique, mutations dans les rapports au public, et finalement aussi d'institutions qui doivent répondre aujourd'hui à la demande des artistes, on le voit bien, le théâtre vient en force dans la cité, on le voit bien, aujourd'hui les comédiens sont prêts à réinvestir les lycées, les collèges, parce qu'ils sentent qu'ils ont des choses à faire partager, qu'ils ont des publics à reconquérir. Aujourd'hui, voilà, c'est de ça dont on a besoin. Et moi, je trouve que M. Mitterrand, là, il envoie les pires signaux, pas les mauvais signaux, les pires signaux.
Alors, vous allez dealer forcément en permanence avec un directeur de CDN, parce que comme évidemment, c'est quelqu'un de très important au niveau du théâtre ici. Quand on apprend que le metteur en scène avec qui il va venir à la direction de ce centre national, par ailleurs, dans son activité privée, avec une boîte de prestations, travaille avec pour l'anniversaire, par exemple, de Monsieur Kadhafi, ça comment se positionne d'une part l'institution Ville, qui va travailler avec ce CDN, et Michael Delafosse en nom propre.
Moi, bon, écoutez, Monsieur Besset a souhaité de manière courtoise nous rencontrer, de manière courtoise nous échangerons ensemble. Et ce sera l'occasion d'abord de faire sa connaissance, connaître son projet, pour le CDN, mais aussi d'affirmer un certain nombre de choses, un certain nombre de principes. Nous, on souhaite que le CDN de Montpellier continue à irriguer l'éducation artistique, continue à soutenir la création, continue à soutenir la manifestation innovante, je le crois, de Julien Bouffier autour d'Hybride, pas par conservatisme, mais parce que ce qui est semé là est précieux pour l'avenir et signe d'une politique culturelle dynamique. Qu'on souhaite que le CDN travaille avec les compagnies qui sortent du conservatoire. On souhaite qu'il y ait ce dialogue-là. Après, il a aussi sa liberté pour avoir son projet et il ne nous appartient pas de la... Mais je crois que la culture est un bien public et je lui dirais un bien public a des missions de service public qui sont importantes. Il faut savoir soutenir la création, il faut savoir soutenir l'audace. Voilà, ça c'est des choses en tout cas que je exposerai. Donc nous aurons des relations. Alors après, on découvre des choses dans la presse. J'avoue avoir été un peu surpris surpris, je m'en expliquerai avec lui. Peut-être ses paroles ont été déformées par des journalistes, hein. Il ne faut pas préjuger, ça arrive. Mais moi, j'ai eu honte de mon pays quand le colonel Kadhafi a été accueilli en France de cette manière-là. D'ailleurs, je ne suis pas souvent solidaire avec les membres du gouvernement, mais Ramayad a eu raison en tant que secrétaire d'État aux droits de l'homme de pointer. Et je crois que même le président Sarkozy c'était devenu une croix à porter cet accueil. Et on se souvient tous des larmes de Mémona Eiterman sur un plateau de télévision qui racontait qu'elle avait été violée par le colonel Kadhafi. Permettez-moi d'emprunter peut-être à Michel Rocard cette phrase qu'il n'avait pas évoquée au sujet de Bousquet et de Mitterrand. Je crois que cet homme est radicalement infréquentable. Donc peut-être M. Besset nous donnera ici quelques explications, mais j'avoue que cette affaire-là, elle est troublante. Bon.
Et voilà, c'était justement l'avis à chaud de M. Delafosse, élu à la culture de la ville de Montpellier, qui a bien voulu exprimer son opinion à ce niveau.
Je sais pas, moi j'ai juste une réaction, mais je pense que ça serait pas mal qu'on laisse la parole à Frédéric.
D'une part, qu'on entende celle de Frédéric et après ce que Frédéric a à dire. Justement, Frédéric, là il y a plusieurs choses qui ont été exprimées. Ouais. On a pu quand même prendre la mesure de l'ensemble des arguments qui s'opposent et de la procédure qui a été assez étonnante. Comment tu te positionnes, toi ?
Nous, on se positionne donc avec un certain nombre d'autres candidats, en fait. Pas tellement parce qu'on a été déçus de ne pas avoir été choisis. Ça, je crois que ça fait partie de la règle. C'est plutôt sur, effectivement, sur la procédure, en fait, puisque à travers cet exemple, en fait, c'est réellement une rupture du pacte, en fait, d'un pacte qui a été fait. Du pacte qui, jusqu'à présent, était établi entre le ministère de la Culture et la profession théâtrale, en ce qui concerne en tout cas les CDN, puisque ce pacte reposait sur le fait qu'il y avait une procédure.
En tout cas, en fonction d'une argumentation.
Voilà. Et précisément, c'était, je pense que c'est ce débat-là qui est important pour la vie à la fois démocratique, mais aussi pour la vitalité de la vie théâtrale. C'est qu'un certain nombre d'artistes puissent défendre des propositions. Et c'est comme cela aussi que les centres dramatiques peuvent évoluer, etc.
Donc là, pour nos auditeurs, qu'on soit clair, il n'y a pas eu d'audition des candidats, il n'y a pas eu de sélection dans ce qu'on appelle une shortlist d'habitude, non. Et puis ensuite
on sélectionne. Ce qui est compliqué, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que effectivement, les procédures ne sont pas
normalisées.
Mais il y a une procédure d'usage, c'est-à-dire d'habitude. C'est pour cela que je parle d'impact. C'est que habituellement, on s'entend sur cette procédure. Donc, il y a d'abord un appel à candidature avec des candidats qui postulent et qui sont retenus. Un certain nombre d'entre eux sont retenus en fonction de leur parcours et de leur lettre de motivation. Et suite à ça, les candidats sélectionnés doivent rédiger un projet en fonction d'éléments qu'on leur donne sur l'équipement en question, enfin sur le centre dramatique en question. Et ensuite, ces projets sont donc étudiés et il y a ensuite les différents candidats sont auditionnés et les tutelles, voilà, en fonction de ce qu'elles pensent devoir être un centre dramatique, choisissent. Donc ça, c'est ce qui se fait habituellement. Alors évidemment, il y a toujours des mécontents, enfin des gens qui sont pas pris, etc. Des fois, la profession, enfin des fois, il y a des nominations un peu surprenantes, mais relativement, habituellement, toute la profession accepte cette règle-là et il n'y a jamais eu de scandale, je dirais, par rapport à ce choix-là. Là, non seulement la procédure n'a pas été respectée, puisque on sait que les dossiers n'ont pas été réellement examinés, en tout cas que le choix ne s'est pas fait sur l'examen de ces dossiers-là. Et d'autre part, quand on apprend le nom de la personne sélectionnée, c'est là où il y a rupture également de pacte, puisque je pense que dans la profession donc du théâtre public, personne ne reconnaît Jean-Marie Bessé comme ayant les qualités requises pour diriger un centre dramatique national.
Justement, sur ce point, là, on rentre dans l'artistique, donc dans une forme de subjectivité. Julien Bouffier vient de nous rejoindre par téléphone. Il est avec nous et il écoute cette conversation depuis un petit moment. Julien, tu nous entends ?
Bonjour.
Salut,
Julien.
Donc, Julien, toi, tu es impliqué aussi, au même titre que Frédéric. Tu portais un projet qui n'a pas été apprécié, auditionné. Donc, ça n'a pas pu aller jusqu'au bout d'une procédure. Donc j'imagine que tu partages à ce niveau le point de vue de Frédéric. Est-ce que sur la question justement des qualités artistiques de Jean-Marie Bessé, tu participes, enfin en tout cas tu corrobores cet aspect un peu mitigé qu'on peut avoir?
Oui, d'une part, moi c'est pas en tant que candidat éploré, hein, que...
Oui, on l'a bien compris, Frédéric le dit aussi, hein, c'est le jeu.
Ça n'a aucune importance et c'est pas du tout... C'est la parole d'un artiste en région qui aimerait que ce centre dramatique le porte, porte le théâtre, les artistes de cette région... au plus haut possible, c'est-à-dire que ce centre dramatique joue son rôle de poumon artistique de la région, de poumon artistique, culturel, afin de nous nourrir tous pour que dans notre métier nous évoluons. Effectivement, la personnalité de Jean-Marie Bessé. Ensuite, c'est des choses subjectives, c'est pas notre tasse de thé, mais ce qui ça nous amène plutôt vers un théâtre plus traditionnel. Mais ensuite, il y a théâtre traditionnel et traditionnel, c'est-à-dire que vous m'auriez dit d'autres noms, on aurait pu ne pas être sur la même longueur d'onde, on aurait entendu, respecté un travail parce que ce travail est visible, parce que ce travail tourne, parce que le problème de la personnalité de Jean-Marie Bessé, c'est qu'on ne la connaît pas. C'est-à-dire que c'est même pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que ça n'existe pas. Et on a beau nous dire que il est reconnu à l'étranger comme en France, moi chevalier d'ordre, chevalier des lettres ou je sais pas quoi là, moi ça ne reconnaît en rien ses capacités à effectivement diriger un lieu. Mais avant tout, c'est aussi quand même le déplacement de la pratique théâtrale vers effectivement une pratique parce que quand même il faut le dire, une pratique du théâtre privé en tout cas. Ça amène le théâtre, c'est un symbole bien évidemment qui est donné là par le ministre de décider qu'un homme qui n'a pas de parcours dans le théâtre public mais essentiellement dans le théâtre privé, bien qu'il n'ait pas non plus un gros parcours dans le théâtre privé, faut rien exagérer, soit ainsi nommé, ça raconte des choses.
Mais en même temps, moi je voudrais, je sais pas si c'est à vous
que je vais demander cette réponse-là, mais c'est quelque chose qu'on a entendu. Et puis, le simple déroulement de la procédure me fait dire que c'est pas l'État qui nomme tout seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans un cas qu'on connaît depuis 2 ans, où le président de la République nous dit « Oh, il y a des procédures, mais de toute façon, elles sont hypocrites, donc je les fous au panier, parce que avant, c'était le président qui nommait, mais on faisait semblant qu'il y ait une commission, et aujourd'hui, c'est moi qui nomme tout seul, et puis voilà, c'est tout, je vois pas où est la différence. » Sauf que là, à un moment, si ma mémoire est bonne, les collectivités territoriales refusent de siéger dans la commission et empêchent la nomination, ce qui veut quand même bien dire qu'elles ont un pouvoir de blocage. Et comme je ne suis pas complètement idiot, je sais comment marche cette SARL, l'État, lui tout seul, n'a pas la majorité des parts. Donc si on en arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a un consensus avec les collectivités, au moins avec une d'entre elles.
Il a la majorité des parts.
Il a la majorité des parts, 51%.
Ah oui, il a plus de 50% du évidemment. La région et l'agglomération, à eux deux, sont autour de 40 ou 45%, mais ils ont pas...
D'accord.
L'État... C'est-à-dire que ce qui s'est passé au moment où ça aurait pu être décidé, ça aurait pu être décidé malgré tout.
D'accord.
Ça a été un coup de dé. C'est-à-dire que là, c'est plus la DRAC, les représentants de la DRAC en région, qui ont dit, bon attendez, on va pas nommer Jean-Marie Besset après cette non-réunion. Mais ils auraient pu le faire. Alors ensuite, évidemment que les collectivités locales ont leur responsabilité dans cette histoire, puisque elle a été acceptée, la nomination a été acceptée par Georges Frêche, ça évidemment. Et que,
en tant que président de région et président de la communauté d'agglomération, les deux autres gros bailleurs.
Tout à fait, tout à fait. Et que malgré tout, le problème, il vient d'où ? Il vient qu'avant, le président de la région et de l'agglomération voulait imposer quelqu'un. Et que du coup, dès le départ, cette procédure était viciée.
Mais il semble que si justement M. Frêche avait imposé M. Lavaudan, pour le citer, il n'y aurait pas eu ce tollé quand même derrière ça.
Bah, c'était plus légitime. C'est ce que veut dire Vincent, non ?
Voilà, il est légitime. Enfin, il a un parcours qui est légitime. Ensuite, on n'aurait pas été d'accord, et nous on l'a dit.
Mais c'est sur la procédure, là, en tout cas.
Oui, c'est la procédure, mais c'est aussi, bon, voilà, c'est tactique. C'est-à-dire que ça arrive à un moment donné où, effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui... je crois qu'on est un certain nombre à penser qu'effectivement, les centres dramatiques aussi doivent peut-être... ressourcer, se redynamiser, etc. Et que il faut un peu comme ça reposer à plat les choses. Et que on voit bien que la droite, elle, entend d'une certaine manière redynamiser les centres dramatiques à sa manière. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je pense que il faut peut-être on s'aperçoit que l'art est aussi politique, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières de concevoir cette évolution et ce nouveau souffle à retrouver. Jean-Marie Besset, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose les recettes du théâtre privé, c'est-à-dire des pièces qui traitent de sujets...
consensuels.
Ou des sujets un peu type séries télévisées, c'est-à-dire des choses un peu de mœurs avec des comédiens qui viennent du cinéma, donc des gens médiatiques. Il a dit également quelque chose quand même qui est quand même assez choquant de dire que Molière, Shakespeare et Brecht, bon, ça suffit dans les centres dramatiques, ça c'est d'un autre temps, maintenant il faut jouer des pièces contemporaines. C'est quand même assez choquant comme conception du théâtre. Le théâtre, c'est quand même le dialogue avec un répertoire immense, et même si, évidemment, il faut travailler avec des auteurs contemporains. Qu'est-ce qu'il a dit aussi ? Il a dit que le centre dramatique allait briller... Hein, à Paris. C'est quand même, à un moment donné, l'inverse de la mission d'un centre dramatique. Les centres dramatiques nationaux ont été créés précisément, donc à l'après-guerre, etc., précisément pour amener du théâtre de qualité en province, puisqu'il existait qu'à Paris, et qu'en province, il n'y avait que les tournées privées à l'époque, Karsenki, etc. Et pour, précisément, contre le privé, contre le théâtre privé, contre le théâtre comme ça de divertissement dans le sens mauvais du terme, puisque moi je pense que le divertissement c'est bien, mais dans le sens étymologique, sortir des sentiers battus et pas juste voilà. Et donc voilà, et précisément ce qu'il propose, c'est à l'encontre de ça, puisqu'il dit qu'il faut aller faire briller le centre dramatique à Paris, alors que le centre dramatique doit au contraire briller en région.
Alors, tous les deux.
Par rapport au privé ou au public, c'est pas qu'on est contre le privé, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que pourquoi pas effectivement que des spectacles de théâtre privé viennent à Montpellier se jouer je ne sais où, mais c'est deux missions totalement différentes et effectivement inverses à la mission de théâtre public et des centres dramatiques nationaux, ça c'est sûr.
Alors tous les deux, on l'avait compris, vous êtes sur une position politique. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une action collective? Est-ce que les patrons de CDN vous suivent dans cette protestation? Est-ce qu'ils vous appuient? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir déboucher sur quelque chose?
Oui, là ça commence avec la dernière histoire quand même, qui était un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui est l'histoire Kadhafi, dont vous avez peut-être parlé déjà, et qui a fait réagir du coup certains ténors du service public, qui ont donc signé qui ont écrit une lettre, enfin qu'on a signé Frédéric et moi, mais nous c'est pas très important. Il y a des gens qui sont beaucoup bien plus importants, dont Jean-Pierre Vincent et d'autres qui ont signé cette lettre. Justement sur Frédéric parlait de pacte tout à l'heure, c'est quand même un autre pacte. C'est que oui, de travailler avec un dictateur ou pour un dictateur, oui, c'est déshonorant. Et le service public ne peut pas se le permettre. Ce ne sont pas ses valeurs.
Après, un même service public qui accueille justement Kadhafi avec les honneurs et la grande tante installée à Paris. Donc ça, c'est problématique aussi.
Bah, on est dans les contradictions et de la France d'aujourd'hui et d'une histoire des politiques culturelles qui n'a pas toujours fait ce qu'il fallait pour se garantir du service public. Moi, j'entends ce que disent les metteurs en scène, mais c'est vrai qu'on est dans un moment de questionnement où finalement, on a un peu oublié de se donner les garde-fous à ce genre de comportement. Mais en tout cas, on a bien compris que vous êtes là, c'est une vraie défense du service public du théâtre, du service public de la culture, que c'est ça la volonté qui vous anime. On est désolé que les collectivités ne veuillent pas répondre à ça. Il n'y a tellement pas d'habitude de mise en débat des politiques culturelles et de l'actualité, non pas artistique, mais culturelle en tant que telle, qu'on essayera de le faire au moins jusqu'aux élections régionales, de leur faire prendre l'habitude de venir parler et d'accepter de dire ce qu'ils quelle est leur conception de l'action culturelle publique, parce que c'est beaucoup d'argent public. Moi, c'est vrai que ça me gênerait que cet argent public il serve essentiellement à de la rentabilité économique d'entreprises qui pourraient se passer de ça, qui pourraient tourner dans du théâtre privé ou dans des théâtres qui n'ont pas besoin de subventions.
Oui.
Mais
Frédéric.
Un dernier mot, Frédéric.
Non, juste pour signaler que donc le 17 décembre, à l'appel du Syndéac, il y a une grosse...
À l'appel du Synavi.
Du Synavi, de plusieurs syndicats, une grosse rencontre
au
13 vent, où seront débattues toute une série de questions relatives aux politiques culturelles, et notamment, on espère, la question de la nomination de BC. Puisque, voilà, il faut dire qu'en tout cas, on est un certain nombre à demander que le ministre revienne sur cette nomination.
C'est une journée ouverte, tous les auditeurs peuvent y aller.
Non, parce qu'il faut savoir par rapport au fait que des grands ténors et qu'on n'est pas quand même non plus tout seul dans notre coin. C'est-à-dire qu'il y a aussi la volonté de la part d'un certain nombre de théâtres du service public de boycotter le Centre dramatique national des 13 ans. Voilà, il faut quand même le savoir.
Histoire à suivre. On vous remercie tous les deux d'avoir bien voulu venir participer en plateau et par téléphone. Et puis, on ne manquera pas de vous reconvoquer pour les prochains épisodes de cette mise en débat des politiques culturelles qu'on compte bien mener dans nos Mardi Blabla.
Jean-Marie Bessier restera-t-il à la tête du CDN ? Vous le saurez dans le prochain épisode de Mardi Blabla.
On va retrouver quelqu'un pour qui, pour reprendre les propos de Frédéric Saccard, l'histoire de son art et l'histoire de sa musique a quelque chose de très important dans ce qu'il fait, quelqu'un qui élève le rock à l'état d'art contemporain, on peut le dire. On va retrouver un petit teaser de ces deux jours qu'on a pu passer avec Rodolphe Burger et qui seront l'occasion d'un magnifique mardi backroom dans 15 jours.
Exactement.
Avec Rodolphe Burger et sa bande.
Rodolphe Burger qui a l'honneur à la scène nationale de Sète. On retrouvera tout au long de la saison du théâtre de Sète. Il était justement première étape comme ça au centre chorégraphique de Montpellier pour amorcer cette carte blanche. Nous l'avons retrouvé à la veille de son concert de dessin qu'il faisait avec nos amis Dupuis et Berberian, et c'est une merveilleuse soirée, deux merveilleuses soirées que nous vous proposerons comme ça dans 15 jours, et on écoute voilà
une petite mise en bouche, encore
exactement.
Un peu trash.
Ça d'avoir une bande. T'as un solitaire qui a une bande en fait.
Ah bah oui, exactement.
Un groupe, c'est un peu une bande.
C'est bien, c'est jamais exactement la même. C'est une espèce de truc. À la fois les mêmes, pas les mêmes. Elle bouge.
C'est l'avantage des retrouvailles.
C'est une étoile encore inconnue dans le public français, je crois. Et c'est surtout un poète de la guitare. Radio,
activité. C'est un rocker.
Rodolphe Burger, c'est Katonoma, c'est Bachoum aussi, on a vu, c'est plein de choses. C'est un très grand musicien. Et puis surtout quelqu'un qui a l'air très accessible, je dirais, hein, qui donne beaucoup.
C'est quelqu'un qui sait réunir des gens, qui arrive à faire travailler. Des belles personnes avec plein de qualités, et je sais pas, il arrive à recouper plein de choses ensemble et à créer quelque chose de nouveau avec, et c'est ça qui est beau.
C'est un colosse.
C'est un son de géant, comme il est, et très très mélodique. Mais c'est pas mélodique bavard, c'est mélodique, mais ça prend vachement son temps, chaque note ça remplit énormément. C'est colossal.
Et pour toi, c'est qui Rodolphe Burger ?
Pour moi, c'est un technicien du son.
aussi en termes de réflexion sur cette idée de cover, quel fond théorique tu mets derrière?
C'est un fond théorique, mais j'ai pas théorisé les choses, j'ai lancé un certain nombre de pistes. Parce qu'il y a 1000 entrées avec cette notion de reprise. Et bon, en prenant l'entrée la plus simple, effectivement, la pratique de la reprise, de la cover, je dirais que l'équivalent de l'école pour la musique classique, donc, pour les rockers ou pour les gens qui pratiquent les musiques populaires, c'est la reprise. Ouais. C'est notre école à nous, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on rentre dans la musique, c'est en reprenant. Et pas du tout en exécutant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment. Donc, il y a quelque chose qu'on reçoit et sa singularité se forge dans une prise de distance avec un héritage. Comment ça se deal? Alors. C'est vrai que j'ai beaucoup pratiqué la reprise et d'une manière peut-être un peu différente des rockers habituels. Dans Katonoma, les reprises de Katonoma, elles avaient une caractéristique. C'est comme si on traitait les standards de rock, un peu comme les jazzmen traitent les standards, avec un mélange de liberté et de respect. Avec beaucoup de liberté. Bon, les jazzmen, ils citent vaguement... le thème, quoi, ils peuvent le déformer, et j'adore ça, cette liberté. Et les jazzmen les plus radicaux, les plus, tu vois, qui sont des novateurs, qui rompent, qui sont dans une rupture avec la tradition, ils ont toujours aussi des gestes de respect, de reconnaissance par rapport à un héritage. Il n'y a jamais l'idée de la table rase complète. Même Ornette avec le free jazz, on pourrait dire, voilà, il veut tout casser, mais non. Il y a Parker avant, et j'aime ça. Ce mélange de liberté et quand même aussi de capacité à rendre hommage aux prédécesseurs. Et dans le rock, il n'y a pas toujours ça. Le rock est plus ado, plus édipien. Dans son rapport, c'est genre, nous, on est les premiers, on débarque et puis voilà, c'est salutaire aussi. Il faut cette espèce de naïveté, de fraîcheur, de sauvagerie. Le punk, bon, mais si tu regardes le punk c'est tout sauf nouveau. Enfin, c'est les mecs qui reprennent des riffs de New York Dolls. Enfin, donc quand tu regardes les choses avec un peu de distance, ce qui était notre cas, Katonoma, on n'avait plus 14 ans. On avait fait tous du rock très jeune, mais quand on a recommencé, on avait un peu pris de bouteille, écouté d'autres choses. Élargi notre culture, on gardait une passion totale pour le rock, donc il ne s'agissait pas de transformer ça en objet intellectuel, machin, mais on voulait quand même y mettre aussi d'autres trucs, quoi, de l'écoute, de l'épaisseur historique du rock, quoi. Ça fait quand même, c'est l'histoire de 50 ans, quoi, plus même. Et on ne peut pas faire comme si, c'était si ça n'existait pas.
Mardi, Backroom.
Et après, c'est compliqué parce que le deuxième degré, c'est pas non plus un truc qui marche en musique. Il faut être au premier degré. Donc, comment on fait ? Il faut être à la fois au premier degré et faire écouter, faire résonner le passé.
Et voilà, un petit avant-goût de cette backroom avec Rodolphe Burger, qui va être un portrait sonore. Hein. Il y a du bruit, il y a du son, il y a beaucoup de paroles aussi, parce qu'il parle, hein. Burger, il parle bien.
Et il y a forcément un paquet d'interlocuteurs, parce que Burger est un homme qui sait s'accompagner et de nombreux artistes de chants très très différents. On le verra avec les dessinateurs, avec Mathilde Monnier, avec Eric Truffaz. Voilà, c'est très très vaste son univers. C'est dans 15 jours, la semaine prochaine, ça sera Miam Miam avec Monsieur Christopher Crimes.
Le nouveau patron du Domendo, l'établissement public de culture du Conseil Général de l'Hérault.
Et ça se fait à la Maison de la Lozère. Nous sommes gâtés, chers auditeurs.
Et puis ensuite, on prendra nos quartiers d'hiver, puisque comme tout le monde dans cette belle radio, eh bien, on arrêtera les programmes frais pour les deux dernières semaines de l'année.
Pour mettre des programmes moisis.
Pour mettre des programmes un peu plus vieux, en tout cas, et permettre à l'ensemble de nos salariés de prendre des congés bien mérités après ce premier trimestre de la saison qui a été un peu chaud. Quoi.
Mais pour l'heure, nous ne sommes pas en congé. Nous recevons Bruno de Cosmic Groove. Nous l'avons déjà reçu sur ses ondes Cosmic Groove. C'est quoi ? C'est carrément, c'est une factory, c'est une boutique, c'est un label, c'est une industrie qui fait du spectacle, du concert. Tout ce qui est soul, tout ce qui est black, tout ce qui est crépus et Cosmic Groove à Montpellier. On peut le dire un peu comme ça, Bruno, finalement.
C'est la World Company. Hein.
C'est la World Company, carrément. Et juste pour vous mettre dans le bain et présenter les concerts qui seront produits en décembre par Cosmic Groove, on vous met un petit Naomi Shelton comme ça. Prends ça dans ta face. What have you done, my brother?
And you wonder on Monday. Mm-hmm. Listen, y'all, at the end. But what you done, you better ask yourself, what have you done, my brother?
I don't know, I don't know.
I say, what have you done, my brother? Oh.
I don't know, I don't know.
So you told your lies without no shade on. Somebody's name alone. You twisted, well, you thought you was clever, huh?
J'imagine que ça vous dit quelque chose, non ?
Ah, bien sûr.
Finalement, c'est marrant parce que c'est des artistes dont quelquefois on maîtrise pas le nom, l'histoire, mais on a tous en tête ce morceau, finalement.
On retient les morceaux, mais le nom des artistes, oui, on les a un petit peu quand même.
C'est Naomi Shelton. Comment ça se fait qu'une femme de 66 ans, enfin, on a essayé de la dater au carbone, de 66 ans, soit jamais venue comme ça sur le vieux continent ?
Ça faudra lui poser la question quand elle va venir.
Et c'est toi qui es arrivé à avoir cette primeur. Tu dois être quand même assez fier.
Oui.
Ouais, pas de toute fraîcheur. Pardon. Ouais, comment ça s'est fait justement le contact ? Comment à un moment donné, c'est toi à Montpellier avec ton réseau qui arrive à faire venir madame ?
Et pour la petite histoire, en fait, c'est le dernier projet du label Dapton que les gens connaissent bien s'ils écoutent Sharon Jones.
Exactement.
Voilà. Donc c'est par ce biais-là en fait. Puisqu'on rappelle que Sharon Jones, la première fois qu'elle était venue en Europe aussi, c'était à Montpellier. Voilà.
What Have You Done, My Brother ? C'est justement l'album signé chez Dapton de Naomi Shelton. Donc on retrouve Naomi Shelton à la Victoire 2, parce que tu as étendu depuis quelques temps. On te connaissait beaucoup au Jam. Là, il va y avoir aussi une soirée au Jam. Et depuis quelques temps, ça a pris une telle ampleur qu'il avait fallu changer de jauge, j'ai l'impression.
Bah, c'est bien de changer un petit peu aussi. Mais je retourne au Jam le 12. Hein.
Ouais, tu retournes au Jam le 12 pour carrément... Là, si vous ne connaissez pas, il faut absolument se précipiter parce que ça a été le concert de l'été dans Montpellier 7 et tout ce que vous voulez. C'était à 7 cet été. C'était au Théâtre de la Mer et un moment absolument magnifique. En première partie d'un Femi Cutie qui a été complètement éclipsé, c'est Anthony Joseph.
qu'est-ce que tu peux dire sur cet artiste?
En tout cas, c'est la révélation de l'année pour beaucoup de gens, je pense. Ça a surpris tout le monde, puisque personne n'était venu pour lui. En première partie, les gens s'en moquent un petit peu et tout le monde avait payé pour Femi, mais ça a été la belle surprise. Et c'est vrai que Femi a été mis KO, du coup.
Carrément KO.
Ça a été dur pour lui, après.
Ce qui est incroyable, c'est voir un black comme ça, qui a une telle assurance, qui pourrait paraître prétentieux, mais qui finalement joue de cette assurance avec le public à merveille. Et en même temps, derrière, une section où il n'y a que des blancs, quasiment. Il y a un bassiste black, mais avec des... Je me rappelle surtout de ce cuivre, ce saxo. On pourrait croire que c'est Peter Van Paul ou quelqu'un comme ça, et qui enchaîne des boucles funk, groovy, soul, incroyable, et avec un son très particulier.
Alors, de Anthony Joseph, oui, c'est du Anthony Joseph. Ça fait penser à plein de choses, à du Gil Scott Heron, mais il a réussi à avoir un son vraiment qui lui appartient.
On va directement mettre un morceau d'Anthony Joseph. C'est le premier morceau sur son album qui cartonne totalement. Je ne sais plus le titre, mais vous allez vous charger de...
Bruno, Birded Sound.
Ouais, exactement.
This is a story about a woman called Pharaoh. Now, Pharaoh is what you would call La Jablesse. She's one of them women, if you meet her in the middle of the night, she's gonna look really beautiful. But when you look, she got one cow foot and one real human foot, you know. Bring it on! Hey! Oh! Oh, no, 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 no. Mechanic. But he had to live to work ever since Pharaoh took him with a pickaxe blade. So he had to go to Bago, you know, chill out, relax himself a little bit, you know. And one day Pharaoh saw my brother. She saw him unfold his secrets on the riverbank. Silver fishes and the ripple so haunting. And her blood take him one time. And she become determined to cross him between the cross cuts of her thighs. Hey! She wanted to fold him, you know. And it was the rancid pluvia of her sex that she drained to rice, what we call sweat rice. Is that she give my brother to drink and to eat? Rockin' dead speed, tempo straight from the holiness church. And it's that went straight to my brother's head and to the seed, of course. So when my brother came back to Kandahar, the first thing he did was start a look for Pharaoh, you know. But he couldn't see Pharaoh nowhere, no how. Come on, where's Pharaoh now? No, she in the gully, no, she in the rooftop, no, she in the singing bush. I bury him down to the ground. And it's then my brother really begin to feel that bone. And he started twist up and bend up like him. Dengue fever didn't make up, he die in there. Oh, my Lord.
Divergence FM 93.9, c'est Mardi Blabla et c'est la culture. Et c'est François Barrès et Vincent Cavaroc en direct avec Monsieur Bruno de Cosmic Groove. Et c'est évidemment le grand Anthony Joseph et le Spasm Band que vous retrouvez sur nos ondes. Évidemment, et comme tu disais, il y a du Gil Scott Heron dans cette façon de déclamer. Mais il y a un petit truc en plus.
Il y a le son Anthony Joseph. Voilà.
Il y a vraiment le son. Alors, comme apparemment ça remplissait du feu de Dieu au jam, t'as chamboulé un petit peu ton programme.
Il y a eu une petite modification de dernière minute. Donc, initialement, c'était Naomi Shelton seule qui était prévue au Salle Victoire 2 le 11 décembre et Anthony Joseph seul au jam le 12 pour le concert ultra intimiste, et ce que je recherche avant tout. Et vu le grand nombre de réservations qu'il y a pour le jam le 12, j'ai réussi à rajouter une date pour Anthony Joseph pour faire un double plateau avec Naomi Shelton.
Donc voilà, ils partageront tous deux la scène le vendredi 11 décembre. Donc c'est sur une configuration peut-être un peu moins intime, mais qui va donner sans doute une espèce de double teinte qui est surtout, et le son de la victoire est quand même toujours assez bon.
Le son de victoire est bon, c'est sûr, on perd le côté intimiste, mais voilà. Et puis j'espère qu'il y aura une rencontre aussi entre les deux, comme à Fiesta 7, ça c'est très sympa.
Exactement. C'est qui va faire la première partie de l'autre?
Naomi Shelton en premier, c'est plus sûr.
Bon, déjà, voilà, avec son âge, il faut quand même qu'on la...
Qu'on l'aménage. Heureusement, en tout cas, qu'on a Cosmic Groove pour faire venir ça. C'est quoi la suite de l'actualité de Cosmic Groove? Une fois qu'on passe le cap des fêtes, qu'est-ce qui se passe pour toi?
On veut un scoop.
Ce qui se passe déjà, c'est... un petit break janvier-février, ça reprendra le 13 mars. Là, c'est un scoop parce que c'est annoncé nulle part encore. Ce sera le grand retour de Brass Construction que j'avais fait venir il y a... Eh oui.
Je me rappelle, au jam justement.
Et c'était au jam, mais le jam était un petit peu petit, avait atteint ses limites parce qu'ils étaient un petit peu trop nombreux sur scène. Donc là, ce sera Victoire 2 avec meilleur confort quand même. Voilà, donc ça, ce sera le 13 mars, Victoire 2. Et après... le 2 avril, ce sera Sergio Quarterman.
On va écouter.
Sergio Quarterman! Voilà encore une pépite qui envoie du bois, Jérémy. On retrouve donc, c'est quoi, en avril, le 2, tu me dis ?
2 avril.
Et là, tu vas le faire où ?
Là, au jam.
Au jam, voilà. On retrouve la teinte du jam. Le jam se prête à merveille quand même à ça. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le jam, c'est une salle qui n'est pas si facile à trouver, enfin, je le sais à mes dépens, mais quand on la trouve, on se sent chez soi.
C'est comme à la maison, là-bas.
C'est un peu comme à la maison. Il y a un autre endroit où on se sent comme à la maison, c'est dans ta boutique. Et où on peut justement acheter tous ces disques, mais aussi tout ce qu'il y a autour du disque, parce que chaque disque draine un univers. Et cette musique un petit peu afro draine tout un univers, design, un univers lié à de la fringue, du meuble, de l'objet. Et tout ça, c'est chez toi.
Oui.
Tout simplement. tu peux nous dire l'adresse exacte ?
Un rue Saint-Côme à Montpellier.
Un rue Saint-Côme, non loin de la place Saint-Roch.
Et il y a toutes les infos sur le site de la boutique également, ouais. cosmigroove.fr.
Et vous retrouvez le scoop, vous retrouvez le site de la boutique sur le site de Divergence FM, puisque forcément il y a le lien.
Il est beau le nouveau site.
Il est pas mal. Il nous permet de faire des trucs.
Tiens, c'est la voix d'Alex Terror.
Merci Bruno.
Merci beaucoup Bruno. Alex, notre ninja favori, notre zombie incroyable, notre cinéphile de la série B.
De l'extrême.
Et de la série Z.
Pour 5 minutes d'effroi. Ah
voilà. Et il n'y a pas de générique là ?
Ah, je préfère.
Non, il n'y a pas de générique.
C'est de ta faute, tu viens trop irrégulièrement.
Ouais, alors... mais là, je viens quand on m'invite.
De quoi tu vas nous parler, cher Alex?
Je vous parlais des zombies, parce que les zombies sont à la mode, là. Parce que c'est une figure sociale qui a été introduite par George Romero dans le cinéma fantastique. En fait, le zombie a une valeur vraiment sociale, une valeur de cliché.
Par exemple, en temps d'identité nationale, de rapport à l'immigration. Voilà. Tu fous un bon zombie en société, tout le monde, il y a une paix collective qui se crée avec un zombie. C'est voilà. Ça que tu veux dire?
Non, c'est pas ça. C'est justement, c'est dans le cinéma de Romero, en fait, les zombies, ça équivaut en fait à la marginalité, à tous ces gens qui se retrouvent à côté de la grande société, quoi, de la société coercitive, ce qu'on appelle la démocratie. C'est d'autant plus prégnant en fait aux États-Unis que dans la vieille Europe. Enfin, c'est un autre phénomène, mais ça a donné de très bonnes choses. Et là, c'est les Anglais qui finalement après des tonnes de films de zombies, un petit peu de séries qui ont enlevé toute la sève polémique du cinéma de zombies cher à Romero, c'est encore les Anglais qui reviennent redorer le blason avec en fait une série télé qui s'appelle The Dead Set. Alors l'argument, je vous fais le pitch là vite fait. En fait, l'argument c'est un jeu de télé-réalité qui s'appelle une sorte de c'est Big Brother, ça s'appelle Big Brother, comme le Big Brother en fait, le premier quoi, le Loft, c'est vraiment le modèle du Loft avec un casting bien pensé, donc avec des caractères qui sont bien campés. Et donc voilà, il y a une invasion de zombies et ils se retrouvent, le casting se retrouve enfermé sur le set de plateau télé, qui est un set de plateau sécurisé. Et donc voilà quoi, c'est ma vie avec un zombie dans le Loft quoi. Donc voilà, et donc au fur et à mesure, le scénario est super bien écrit. En fait, les Anglais ont eu un parti pris assez malin en termes de diffusion, c'est-à-dire que mis bout à bout, ça fait un film de 2h16, mais autrement, en fait, ils ont découpé la série en, je crois, 6 épisodes. Donc ça donnait des épisodes d'à peine une demi-heure, en comptant la pub, en comptant tout ça. Mis bout à bout, ça fait un vrai film, c'est super bien écrit. Et il y a trois histoires, trois grands arcs qui vont se rejoindre. C'est très satirique. Il y a le personnage du producteur du jeu de télé-réalité est tout simplement immonde, et on a droit à des grandes scènes bien cocasses où monsieur se lâche pas mal. D'ailleurs, c'est lui qui créera le grand climax final du film, là où tout le monde finalement meurt, puisque c'est un vrai film de zombies, il y a pas de happy end. Donc voilà quoi, c'est pas dire la fin que de dire que tout le monde meurt, mais c'est comme ça dans les vrais films de zombies. Donc voilà, c'était en fait pour faire je voulais te parler de ça parce que c'était en fait pour ça passe sur le câble en ce moment, je crois bien. Et c'était juste pour faire la nique à Zombieland que j'ai vu, qui cartonne au ciné, qui a cartonné aux States, et qui est une sorte de film de zombies pour rigoler avec Woody Harrelson. Alors, c'est super rigolo, il y a des grosses scènes gore. Mais bon, ça rime pas à grand chose. Il y a pas d'implication émotionnelle. La caractérisation et la morale de l'histoire, c'est vive ma petite famille et tout ça, quoi. Une sorte de repli sur soi et sa petite famille. Il y a des valeurs un petit peu douteuses. Ça passe sous le couvert du divertissement, ça cartonne au ciné, tout le monde est fan. Donc voilà, moi je préfère The Dead Set parce qu'au moins ça rentre dedans. Il y a du vrai gore, il y a des vrais arrachages de colonnes vertébrales, il y a du vrai masticage de chair humaine encore vivante. Et donc voilà, il y a des choses comme cela, c'est assez couillu. Et en fait, donc ils avaient diffusé cette série, donc c'était 6 épisodes, sur toute une semaine en fait, tous les soirs. Et c'est monté justement, c'est super bien écrit, ça se finit dans le confessionnal, évidemment du jeu télé quoi. Et donc voilà, c'est à l'anglais, c'est satirique, c'est en même temps c'est pas parodique. Et c'est là où ils sont forts, et c'est là où ça a tout son prix et tout son sens.
Voilà, et ça passe sur quoi?
Je crois que ça passe sur Frisson, sur le câble, ça doit être le bouquet canal. Et donc voilà, mais ça devrait passer.
On est micro niché nous ici.
Non, mais c'est pas ça, mais c'est le problème. Le problème avec ce genre de série, c'est sur le réseau hertzien, enfin le réseau maintenant qui est même plus hertzien, parce que je dirais que toute notre génération maintenant commence à regarder la télé sur le câble parce qu'on a une connexion internet et que maintenant on nous le donne
et
avec.
Surtout grâce à Dieu, toute notre génération commence à ne plus regarder cette pourriture de télé et écoute la radio Divergence FM 93.9, notre émission.
J'emmerde la radio de toute façon,
toujours,
tu sais très bien.
Coupez le micro de Monsieur Terreur là, s'il vous plaît. On se quitte avec.
Quelques petits bons plans. Allez, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est la trêve des confiseurs. Il y a une fois n'est pas coutume, on va parler de cirque parce qu'il y a Arkaos qui passe, et Arkaos a été l'un des fondateurs du cirque mécanique, un peu gore et un peu violent. Ça te plairait, Alex, je suis sûr. Il y a eu beaucoup de spectacles avec des tronçonneuses, avec des choses comme ça. Et Arkaos revient après quelques années au domaine d'eau le 26 et le 27. C'est pour les fêtes de Noël.
Et normalement, nous irons pénétrer leur univers en plein montage.
Absolument.
Et
on fera un spécial Archaos, en janvier, la grande compagnie marseillaise. On vous livrera en janvier. Il y a quelques petites dates. Pas grand chose en fait, parce que c'est quand même la fin d'année. Il y a le Squatter toulousain, le Dodoz, qui passe au Rockstar le 17 décembre. Ils sont là, ils sont en train de cartonner. C'est pas forcément notre tasse de thé, mais on va vous laisser vous faire votre propre opinion avec un petit morceau des Dodoz. C'est leur dernier disque, leur premier disque par contre, qui s'appelle De Dodoz, et c'est le titre Queen in a Tower.
On remercie Ellie à la technique. On se retrouve mardi prochain pour Mardi Miam Miam avec Christopher Crimes, et dans 15 jours avec Rodolphe Burger, une émission à ne pas manquer. Merci chers auditeurs, rediffusion samedi, mais ça je sais qu'à la radio on n'aime pas qu'on le dise, parce que quand le samedi arrive, ça fait pas bien de finir comme ça.
Ça veut plus rien dire.
Ciao,
à la semaine prochaine.